Hop, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Table. Ah oui, mais dis donc, ça braille. Bien le bonjour, les amis. Alors là, on va être mobilisés. Le plaisir culinaire est tout simplement divin. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le pape. Eh bien, c'est ce que nous allons prêcher jusqu'à midi et demi. Comment bien cuisiner avec peu, peu d'ingrédients, peu d'ustensiles? On va répondre à cette question dans un instant. Et puis, je vous les présente. Ils sont avec moi. Mes fidèles de la fourchette sont là. Elles confessent le bon goût des chefs engagés. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche. Bonjour, Charlotte.
Bonjour Laurent, c'est le pape qui le dit.
Mais en plus, on peut tout dire maintenant. Bien loin des vins de messe, il sait choisir la bonne bouteille pour l'accorder aux produits de saison. Olivier Pouls est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Monseigneur, bonjour mes agneaux.
Marion Sauveur nous rejoint dans un instant avec vos questions et son journal de la cuisine. Une actualité chargée, vous entendrez aujourd'hui. Et puis on a besoin de douceur, hein, on est d'accord.
Oui,
hein, en ce moment, c'est pas du luxe. Alors ça tombe bien, sur les coups de midi, nous recevrons le chef pâtissier Christophe Michalak. À table, je dis moins fort que Valérie Bonneton. À table. Allez, pas de doute, c'est l'automne, on l'a vu, on s'est remis aux plats mijotés, aux quiches généreuses pour se réchauffer. Ça fait du bien de se retrouver en cuisine, en famille. Alors, quel est votre goût de la semaine, chers amis? On va commencer par vous, Charlotte.
Alors, moi, j'ai même pris de l'avance sur Noël. Hein. Je vous parle d'un foie gras du Béarn à la braise, accompagné de betteraves au café. Un plat de Vivien Durand, le chef du Prince Noir à Lormont, en Gironde. Vraiment, ça réconforte. Moi, je préfère le foie gras chaud, en plus. Donc,
C'est un bel accord, c'est l'amertume du café. Hein.
Ah oui, alors, on la cuit à l'eau. Ensuite, on la pique de grains de café et ensuite on la grille au barbecue. Franchement, c'est divin.
Eh ben, dites donc, ça donne envie d'être à Noël. Allez-y. Déjà, ça.
Bah, moi, j'ai fait plus simple.
Olivier. Hein.
Mais moi, j'ai été éduqué à l'époque, on nous disait que les moules, c'était les moins heureux.
Oui.
Donc moi, quand arrive septembre, octobre, je mange des moules. Et j'ai mangé des délicieuses moules de la baie Saint-Michel, vous savez, les moules de Bouchot.
Oui, hein. Oui, elles ont une AOP même. Hein.
Exactement. Et c'est un pur régal. Alors, il y a deux manières pour moi de les faire. Soit très traditionnellement avec du vin blanc, plein de petits légumes et puis une petite goutte de crème quand même. On
ah,
se relie jamais.
Ah, bah, vous êtes bien l'ami de la crème et du sinon, beurre, c'est pas pour rien.
Eh bah, oui, sinon en papillote au four, j'adore aussi. Et cette semaine, j'ai fait des moules en papillote au four.
Ah, pas mal ça. Mmh. Ah, je prends, oui. Ouais. Et puis, elles s'ouvrent bien comme ça. Donc, on peut récupérer la chair. Ouais.
Quelques herbes, 10 minutes dans un four bien chaud. Dès qu'elles sont ouvertes, tac. Elles restent bien juteuses.
Oui, brûle-doigt. Faut que ça crame. Moi, j'ai fait une cocotte d'agneau avec des aubergines. Très simple, c'est un plat que j'adore faire en ce moment. Du collier d'agneau, c'est un morceau qui coûte pas cher. Hein, vous le trouverez aux alentours de 10 euros le kilo.
C'est bien gras.
Ouais, c'est bien gras, il y a du goût. Donc je fais revenir un petit peu de curcuma avec de l'ail dans de l'huile d'olive. Ensuite, je mets mes colliers d'agneau, des aubergines, de l'oignon rouge et je recouvre avec un bouillon de légumes, un bon bouillon de légumes, on en a déjà parlé suffisamment ici. Vous assaisonnez comme il faut et ensuite 2h30 au four à 170 degrés et il n'y a rien à faire, juste à se régaler au bout de 2h30.
Il faut s'y mettre maintenant.
Oui, il faut s'y mettre maintenant, il faut s'y mettre un petit peu plus tôt que maintenant. Et ben justement, tiens, c'est l'heure de faire son marché maintenant. Aujourd'hui, en plus du cabas, amis auditeurs, chaussez vos bottes. On va à Reux, à côté de Rennes, en Bretagne. On pense aux Bretons hein, d'ailleurs qui ont été victimes des intempéries. Et dans cette commune, on soutient les ventes à la ferme avec le Reux maraîcher. Jeu de mots, vous avez remarqué. L'heureux maraîcher. Alors, aussitôt cueillis, les produits sont vendus dans une grange. Et on peut aussi cueillir dans les champs. Julien Amat a chaussé les bottes de la cueillette au magasin.
Bah, j'ai des haricots verts, des prunes, des tomates, puisque c'est encore la saison, des carottes.
On est dans une grange. Il y a des bottes de paille. C'est sympa, le décor, c'est super joli.
Bah, ce qui me plaît, c'est que ces produits ici, enfin la grande majorité des légumes sont produits ici.
Autour, il y a les serres pour faire pousser tout ce qu'ils font pousser. On peut récolter quand c'est la saison.
Du radis noir, de la salade et du chou rave pour l'instant. Je ne le connais pas, je prends pour la première fois, je crois bien. C'est une belle saison.
Oui, on peut également ici aller faire sa cueillette. Donc c'est annoncé à l'entrée du bâtiment.
Alors là, je suis en train de cueillir des haricots verts. On a la chance de pouvoir cueillir nous-mêmes nos haricots verts dans le champ, directement. Ça vaut tous ceux qui sont achetés en grande surface. J'ai un grand sac.
Il y a une dame qui en a pris 7 kilos ce matin, c'est un record à battre.
Ah oui, là non, j'ai pas le temps, le magasin va fermer, donc je n'aurai jamais le temps. Non, non, en effet, record à battre, je pense.
Et il y a encore des haricots verts. Enfin, il y en avait encore avant la tempête Alex, parce qu'à mon avis, malheureusement, nos amis maraîchers ont beaucoup souffert des intempéries de ces derniers jours. Alors, ce qui est intéressant quand on cueille comme ça directement à la ferme, 2,90 euros le kilo d'haricots verts. Au magasin, c'est le double.
Donc, bah, oui, c'est... Forcément, la main-d'œuvre, c'est vous qui vous la payez vous-même.
Non, mais c'est intéressant, c'est un beau parti pris, ça. Hein.
Oui, parce que haricots verts, courgettes, tomates, c'est encore la saison, hein, la fin, mais profitons-en avant que ça finisse.
Les tomates,
quand même.
Qu'est-ce qu'elles sont
jusqu'à
bonnes
en ce moment. Faites une chouchouka, les amis. Allez, après la Bretagne, on vous emmène en Alsace à la récolte du radis noir. Alors, entre les remèdes de grand-mère et les recettes relevées, on va en croquer. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Pas de jaloux au pays des radis. Le printemps et l'été voient rose, l'automne et l'hiver en croque pour le noir. Alors c'est vrai qu'il est plus robuste, plus épais. C'est la version musclée du radis printanier, le radis noir. Olivier Pouls, tiens, vous qui êtes un fan du Réfort, c'est un cousin.
Oui, ça ressemble un peu, hein, ça a ce côté piquant aussi. Alors c'est pas le même, hein. Le Réfort d'ailleurs a la peau blanche, le radis noir a la peau noire comme son nom l'indique. C'est un radis, on va dire, un peu rustique quoi.
Alors on le cultive un peu partout en France, Charlotte, mais c'est vrai qu'il se plaît bien en Alsace. Hein.
Oui, oui, du côté de Célestat dans le Bas-Rhin, c'est d'ailleurs en ce moment qu'on commence à le récolter et c'est maintenant jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc c'est assez court, mais c'est en ce moment.
Oui, c'est une belle terre de maraîchage, hein, Célestat.
Depuis le 12e siècle, elle est connue dans la région pour abriter effectivement de nombreux maraîchers et ce sont les femmes et hommes d'église qui à l'époque s'étaient regroupés pour ensemble cultiver des jardins.
Oui.
Et c'est toujours le cas.
Oui, j'ai parlé du pape au début, oui, on revient.
On y revient toujours.
On fera une émission sur la cuisine des abbayes et des couvents. C'est intéressant de voir tout ce que les moines et les clarisses ont pu mettre en place comme recette.
On va pas faire que manger, on va boire aussi.
Ah, aussi pas du vin de messe. Alors, on retourne au radis noir. Arthur Enbaché a tendu son micro à Denis Digel, qui est maraîcher et fondateur de la boutique Cœur Paysan. Là, il est dans son champ à Célestat.
Entre Vosges et Forêt-Noire, dans la plaine d'Alsace, où il y a toujours eu des maraîchers parce qu'il y a une proximité directe avec la nappe phréatique.
Donc là, c'est de la mâche, là-bas, des oignons blancs.
Ouais, mâche, oignons blancs, et puis là, on se trouve devant une parcelle de radis noirs, 40 arts. 40 arts et à peu près 100 000 radis noirs.
Il y a 100 000 radis noirs sous nos yeux, là.
Oui, 100 000 radis noirs, peu de choses près, on doit avoir 100 000 radis noirs.
Ouais.
On en voit, hein, donc ça se tire tout simplement. Hein.
Ah, c'est très facile à,
très facile, donc il fait
à sortir de la terre.
Et puis la racine n'est pas trop dure, donc celui-là, il fait 22, il fait 25 cm. Puis on coupe le feuille, vous l'entendez, je viens de couper les feuilles, et puis on arrive à un radis noir qui fait 500-600 grammes. Qui sonne pas creux, alors je sais pas si on l'entend à la radio, il sonne pas creux, hein. On sent qu'il est rempli, il est lourd.
Moi je le râpe,
oui.
Avec des carottes râpées, ça donne un petit peu de
peps. Ouais.
De peps, ouais.
Moi j'aime pas trop les mélanges, je préfère une salade de carottes et une salade de radis noir.
Oui.
Et en hiver, il n'y a rien de mieux qu'un pot-au-feu accompagné d'une salade ou deux crudités, notamment le radis noir ou de la carotte ou du chou. Et donc on le mange en salade, mais on le fait aussi en complément alimentaire avec soit du sucre candi, soit avec du miel. Donc on coupe le radis noir en deux, ou on le met en rondelles et on le fait mariner avec du miel. Et ça prévient de la toux, ça prévient des rhumes, enfin toutes les maladies un peu hivernales. Et finalement, le goût, on peut dire que c'est un peu particulier, mais finalement, le goût du jus de radis noir mariné avec du miel ou sucre candi, c'est pas mal.
Ça me plaît, ça, Denis Digel. Merci, ça me plaît beaucoup. Non, vous êtes vous dodelinez, Olivier.
Non, mais moi, je l'aime bien en salé, en fait. Oui. Et moi, je fais des ravioles. J'utilise comme support de ravioles. C'est-à-dire, on coupe très, très finement des rondelles de radis noir, à cru, évidemment. On met une petite farce à l'intérieur. Alors, par exemple, avec une boîte de thon qu'on va épicer un peu, mettre un petit peu d'huile, etc. On met ça au milieu, on remet un radis noir par-dessus, ça fait une petite raviole comme ça.
Pas mal.
Et c'est pas mal, il y a
c'est
le croquant
chic.
Du radis noir et puis le piquant aussi.
Moi, je l'aime bien comme Arthur Elmbaché, juste râpé et assaisonné. Ma mère me fait ça depuis que je suis gamin. Et c'est vrai qu'on sent...
Ça que vous êtes si...
Ouais, non, mais c'est tonique. Il y a un côté antiseptique, effectivement, ouais. Dans
mais
le radis noir.
C'est totalement bon pour la santé.
Et
hein,
le
c'est
foie.
Clair.
C'est
on, un... fait, ouais. On fait des cures au changement d'ampoule. De saison d'ampoule de radis noir pour le foie.
Rafanus, ça s'appelle. Oui, c'est costaud, ça, par contre. C'est du jus concentré. Autant vous le dire.
Faut mieux l'avaler rapidement.
Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions, amis auditeurs, avec vous, Marion Sauveur. Bonjour, Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour, Marion.
Bonjour, Marion.
Vous en croquez pour le radis ?
Eh bien, écoutez, plutôt le radis rose que le radis noir. Mais
Vous êtes une fille du printemps, c'est pour
c'est ça.
Vous êtes une fille d'avril. Voilà, comme direz-vous-y. Alors, des questions de nos auditeurs ?
Eh bien, oui, sur la page Facebook des Bons Vivants ou sur le 39-21, 50 centimes par minute. Et cette semaine, Françoise vous demande si vous avez une recette de sauce pour un jambon à l'os rôti. Avec une difficulté supplémentaire, puisqu'elle ne veut ni crème, ni moutarde, ni miel.
Ah bah dites donc, Françoise, elle nous lance
défi.
Exigeante.
Pas de moutarde, pas de miel. Moi, ce que je fais, c'est un jambonneau en cocotte, un jambonneau que vous allez acheter chez le boucher. Je le fais saisir dans une belle cocotte avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Et je mets de la bière et du sirop d'érable.
Oui.
3 heures à 170 degrés. Et au bout de 3 heures, quelques patates douces coupées en morceaux. On prolonge d'une demi-heure, ça fait 3h30. Il faut que ça cuise longtemps, hein, ça c'est la vérité. Voilà. Si vous avez une cuisinière à bois, vous gardez la température comme ça, 170 degrés du four. C'est magnifique, ça, j'adore. Moi.
Vous êtes dans les mijotés en ce moment. Hein,
ouais, je suis très mijoté. Mais vous avez raison, ça me parle bien. Hein.
Bah, pas loin de la cave, moi je peux proposer aussi une version au vin rouge, dans l'esprit un peu d'un bourguignon en fait. Donc avec oignons, carottes, une bonne quantité de vin rouge. On peut rajouter un petit trait de Porto aussi pour arrondir si on veut. Un petit peu de madère éventuellement, puis on laisse bien cuire. Quand le jambon est bien cuit, on lit très légèrement avec un petit roux pour donner une consistance sirupeuse.
Marion.
Alors, on cuisine pas forcément tous le chou rave. C'est Jean-Jacques et Anaïs qui nous demandent des conseils, des recettes. C'est ce petit chou, vous savez, qui est surmonté de tiges avec quelques feuilles. Il est différent des choux classiques, en fait.
Oui, c'est un petit chou tout lisse, en fait.
Oui, exactement. Mais du coup, on le trouve souvent en salade, en fait, plutôt en version crue, assez fraîche, assez râpée. Puis, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir jouer à ce moment-là sur les huiles, parce que maintenant, il y en a de très, très différentes sortes, à première pression, à froid, toujours. Et puis, on peut prendre du colza, on peut prendre
tournesol,
du sésame.
Oui.
Tournesol,
on mélange
voilà,
les vinaigres,
on mélange
aussi.
Les vinaigres et c'est ça qui lui donne son peps.
Vive le chou rave. Ben voilà, on vous mettra des recettes sur europe1.fr et puis on continue à poser des questions, Marion.
Mais oui, sur le répondeur de l'émission, le 39 21 50 centimes par minute sur Twitter ou sur la page Facebook de l'émission.
Et n'oubliez pas la newsletter qui est disponible sur europe1.fr, c'est gratuit, vous retrouverez les recettes de l'émission ainsi que tous les jolis conseils gastronomiques qu'on distille comme ça sur Europe 1 tous les jours. Allez, quoi de neuf du côté des fourneaux? L'actualité de la semaine est très chargée, c'est ce que vous allez nous dire, Marion, avec votre journal dans un instant. Et on va découvrir aussi vos gris-gris de la cuisine. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Peut-on bien cuisiner avec peu d'ingrédients, peu d'ustensiles? Nathalie Georges, qui cuisine dans une chambre de bonne, nous dira que oui, c'est possible et c'est même très joyeux, vous entendrez. Mais avant, c'est l'heure de votre journal de la cuisine, Marion. Alors là, une triste actualité pour le coup cette semaine. Voici les titres. Des restaurants fermés, la mort du chef Takusekin et une prime pour les planteurs de cacao. Voici le menu. Alors, les restaurants de Guadeloupe et de la métropole ex-Marseille sont fermés.
Oui, rideau baissé depuis dimanche soir, hein, pour au moins 15 jours pour ces établissements en raison de la reprise de l'épidémie. Ces deux zones sont placées en alerte maximale. Les bars de 11 villes dont Lyon, Bordeaux, Lille, Nice ou Paris ont été contraints de fermer leurs portes à 22h depuis lundi. Et sursis pour les restaurants parisiens. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi que la capitale et sa banlieue pourraient passer en alerte maximale lundi. Le gouvernement va examiner les propositions faites par les représentants de la restauration pour permettre aux établissements de rester ouverts.
Triste nouvelle, je le disais, le chef franco-japonais Takusekin s'est donné la mort lundi.
Oui, le chef du Dersou et du Cheval d'Or de restaurant parisien était âgé de 39 ans. Takusekin était devenu une référence du renouveau dans la gastronomie française. Il avait notamment été récompensé cette année du Fooding d'honneur. Sa mort survient après des accusations d'agression sexuelle. Son nom avait été révélé par le site d'information sur la restauration Atabula. L'affaire n'a pas été portée en justice. Nous pensons bien sûr à sa famille.
Oui, ce qui est terrible dans cette disparition de Takusekin, c'est que c'est terrible pour les deux parties, la victime et l'accusé, parce que la justice n'a pas pu se prononcer en fait. C'est ça qui est terrible.
Exactement.
Depuis jeudi, les producteurs de cacao ghanéens et ivoiriens reçoivent une prime, Marion.
Oui, à hauteur de 400 dollars la tonne de cacao. Cette prime a été décidée par les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana. Elle est versée par les industriels en supplément du prix du marché. L'objectif est de permettre aux producteurs de percevoir un meilleur revenu. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus gros producteurs de cacao du monde.
Eh bien, merci Marion et à la semaine prochaine avec un autre journal plus gai, on l'espère.
On l'espère, oui.
Alors, s'il devait vous rester un seul ustensile, un seul ingrédient dans votre cuisine, ce serait lequel? Posez-vous la question, chers auditeurs, parce que le documentariste Jérôme Descamps a posé cette question aux habitants du quartier de Belleville, à Paris. Il a réalisé une belle série de portraits de femmes et d'hommes de cultures et d'origines différentes. Vous pourrez voir ça sur YouTube. Et on a un petit aperçu de ces belles histoires, justement, au micro de Julien Amat.
C'est un rouleau à pâtisserie qui pourrait parler, qui pourrait vous raconter beaucoup de choses.
Voilà, ma cuisine. Je prépare tout sur cette planche.
L'idée, c'était de se promener dans le quartier du Grand Belleville pour rencontrer des gens qui nous racontent des histoires de cuisine. Et on a choisi, enfin moi j'ai choisi les objets et les épices. C'est les gens du commun, c'est les gens de l'arrêt de bus en fait, ou du quai du métro. Et quand vous les regardez, vous dites, mais alors, quelles sont les histoires qu'ils peuvent me raconter?
Il se trouve que moi j'adore le poivre. Je ne sais pas si vous aimez les moules marinières. Il n'y a pas 36 solutions. D'abord, il faut un bon verre de muscadet, ça c'est sûr. Dans le fond de votre faitout, vous mettez un petit peu de beurre salé quand même, ça c'est meilleur. Mais surtout, vous mettez du poivre.
Alors nous avons fait 23 portraits. Il y a des pays différents et donc on se retrouve avec à la fois des petites migrations et des très grandes migrations. Il y a tout le Maghreb qui est à peu près représenté. J'aimerais raconter ça aussi. C'est que nous sommes le produit de migrations, si petites ou si grandes soient-elles.
De là où je viens, puisque moi je suis né au Cameroun, et la cuisine a, comment vous dire, prend toute la place. Mais c'est pas, y a pas que ça qui me définit. C'est, voilà, j'ai aussi fait mes expériences, j'ai aussi des goûts que j'adore, comme l'aigre doux. C'est pas des saveurs que chez nous, on a. Mon père, jamais il mangerait. Enfin, aigre doux, dans son palais, c'est pas quelque chose qui passerait forcément, alors que moi, j'adore ça.
Ah ben moi, pareil, j'adore l'aigre doux. Ça s'appelle les gris-gris de ma cuisine. Vous pouvez découvrir donc ces portraits de 3 minutes, c'est gratuit, hein, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, de la maison des métallos, ainsi que sur leur chaîne YouTube. Voilà, vous savez tout. Est-ce que vous avez un ingrédient, un ustensile préféré, tiens, Charlotte?
Moi, c'est la râpe. Parce qu'on peut faire des carottes râpées, parce qu'on peut râper du bon comté ou du parmesan.
La râpe à plusieurs faces parce...
Oui, à plusieurs faces.
Ah oui. Ah voilà, la râpe luxe, voilà.
Ou du gingembre pour faire des petites décoctions, tout ça, moi je trouve ça, oui, j'aime.
Olivier, mais moi je fais écho à ce que disait une des dames, moi c'est ustensile et ingrédient en même temps, c'est le moulin à poivre avec le poivre dedans, évidemment, je suis un dingue de poivre, je trouve que le poivre dans la cuisine c'est absolument indispensable, j'ai envie de dire de l'entrée. Au dessert, j'utilise du poivre.
Mais même sur les desserts, c'est vrai qu'avec les fraises, c'est magnifique. Il y a encore des fraises, là, justement, profitons-en. Alors, c'est vrai que ces ingrédients, ces ustensiles, eh bien, voilà, distillent des souvenirs. Eh bien, des souvenirs, la pâtisserie en fabrique de beaux aussi. Restez avec nous parce que le chef pâtissier Christophe Michalak se rapproche avec ses douceurs. Bon samedi midi sur Europe.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Alors, peut-on bien cuisiner avec peu? Peu d'ingrédients, peu d'ustensiles, qu'on soit étudiant, minimaliste ou juste mal organisé. C'est pas toujours simple de cuisiner avec peu. Voilà pourquoi on est bien content de faire la connaissance de Nathalie Georges, une cuisinière joyeuse et inspirée sous les toits de Paris. Ah, oui. Bonjour Nathalie Georges.
Bonjour. Bonjour à tous.
On est ravis de vous recevoir. Vous venez de sortir un très joli livre
c'est
qui s'appelle
gentil.
La cuisine du sixième étage. C'est paru chez Herodios.
Exactement.
Et ça raconte un petit peu votre vie à travers des recettes, hein, si on doit résumer.
Exactement. C'est un parcours de vie au travers de la cuisine. Et l'idée est de montrer, encore plus aujourd'hui, que si on n'a pas de moyens ni techniques, ni financiers, ni d'espace, enfin.
Oui, parce qu'il se passe dans une chambre de bonne, on n'a pas beaucoup d'espace.
Oui, parce qu'il faut préciser que le sixième étage à Paris, dans les immeubles parisiens, c'est l'étage qui est dévolu normalement au personnel de maison.
Dans les appartements haussmanniens, quand vous avez affaire à des constructions modernes, ils se sont aperçus que finalement, c'était bien le dernier étage parce qu'il y avait de belles vues. Mais au départ, c'était pas l'idée.
Vous avez été longtemps directrice artistique dans de grandes maisons.
Oui.
Un changement de niveau de vie, comme vous dites, fait que vous vivez aujourd'hui au sixième étage dans une chambre de bonne. Mais alors, on a envie d'être sur le palier, je peux vous dire, quand on lit votre livre, parce qu'il se passe des choses sur ce sixième étage.
Ça doit sentir bon.
Hein. Ça sent très bon. La première chose, c'est que vous nous dites, effectivement, et vous venez de commencer à le dire, on n'a pas besoin de beaucoup de place pour cuisiner.
On n'a pas besoin de beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de besoin de matériel, on n'a pas besoin de matériel mécanique, toutes les choses manuelles, ça marche très bien, le presse-purée à la main, la petite balançoire pour couper les échalotes, tout ça, ça marche très très bien. Et je pense que souvent, on s'encombre d'ustensiles qui sont parfaitement inutile.
Ou de robots.
De robots, de trucs. Non, mais en plus, le fait de le faire à la main, vous avez un contact avec la matière.
Exactement.
Et vous la connaissez mieux, vous l'appréhendez beaucoup mieux.
Si, les robots ont un gros avantage souvent, c'est qu'ils prennent bien la poussière. Quand même.
Oui, c'est bien. Attendez, si je peux me permettre, il y en a un autre, c'est d'être très compliqué à laver.
C'est vrai.
Et de prendre de la place, ça fait 3.
On va lister votre matériel, tiens, Nathalie Georges. Une plaque électrique à un feu uniquement, 3 casseroles de diamètre 16, 18 et 20 cm.
Ouais.
Découvert, c'est important pour cuisiner un
très
petit peu
important.
À l'étuver, à l'étouffer.
Faire mijoter.
Un égouttoir à salade petit modèle, 3 poêles, 2 planches. Mais voilà, c'est assez minimaliste. Comment vous faites? C'est surtout une question d'organisation pour faire toutes ces belles recettes que vous cuisinez dans votre chambre de bonne?
Je pense qu'il y a de l'organisation, mais il y a aussi de la volonté de partage et la volonté de bien manger, quoi. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans la chambre de bonne qu'on doit mal manger.
Oui, et bien manger pour vous, c'est important depuis toujours. Et votre grand-mère Gigi, Gilberte, y est pour beaucoup?
Elle y est pour beaucoup parce qu'elle a formé mon palais. C'est très important. D'abord, on mangeait tout, on discutait pas. Et en plus, on apprenait à utiliser absolument tout. Je veux dire, le rôti de porc, toujours dans l'échine, je vous le recommande, jamais dans le filet.
Bon marché, l'échine.
Beaucoup plus goûteux.
Oui, du gras.
Car, et le gras, non mais le gras, c'est délicieux le gras. On a besoin de gras.
Mais nous sommes des dingues du gras, nous.
Moi aussi. et d'ailleurs, vous voyez, il ne faut pas dire que ça fait grossir, parce
exactement.
Que ce n'est pas vrai.
Ah, vous êtes taille fine, hein, comme
vous
on dit.
Vous êtes d'accord. Bon,
c'est les escaliers, c'est le sixième étage, ça fait, c'est manger bouger aussi,
c'est
le sixième
formidable,
étage.
On n'a pas besoin d'aller dans la salle de gymnastique. Ensuite, donc, le rôti de porc, c'était un jour le rôti de porc dans les Chines. Le lendemain, on avait une partie des restes dans une petite cocotte avec une sauce au cornichon. Et trois jours après, on avait des tomates farcies.
Dans votre livre, on trouve un bœuf bourguignon, truite aux amandes, endive au jambon, mousse au chocolat, vin de fraise. Ce sont les recettes de votre grand-mère, ça
sont
aussi.
Les recettes de Gigi, hein, exactement.
Et vous le dites dans le livre, justement, c'est ça qui compte d'abord, c'est la transmission aussi, pour continuer tout au long de sa vie à se faire plaisir et du bien, quels que soient nos moyens, quels que soient nos moyens.
Ça, c'est capital. Le fait d'avoir cette transmission, d'abord, vous apprenez aussi, vous observez, parce qu'on apprend beaucoup dans la vie en observant. Vous voyez un tour de main, vous voyez une autorité dans la manière de prendre un plat, de le sortir, de prendre une casserole, de faire une sauce. Et puis une liberté, parce que c'est pas grave. La cuisine, ça se négocie, ça part comme ça, mais après tout, vous pouvez retourner la situation, vous rajoutez un truc, ça devient autre chose.
Exactement, il ne faut pas avoir peur de se tromper
en
cuisine.
Non, c'est jamais raté. À partir du moment où l'ingrédient de base est bon, vous ne vous trompez jamais.
Banane flambée, soupe à l'oignon, crêpe au jambon. Alors ça, ce sont des recettes que vous faites encore au sixième étage pour les étudiants qui vivent à côté de vous, en fait. Hein.
Eh bien, si vous voulez, au sixième, on raisonne un peu différemment. On a des patates, des pommes de terre, on a un chou, on a des brocolis, on a un légume, on a des œufs et on fait quoi avec? Parce qu'il y a un feu, donc il ne peut pas y avoir trop de choses, ça ne peut pas être trop compliqué. Le plat unique, il doit vous nourrir complètement. Donc vous décidez de faire de la salade de pommes de terre avec des saucisses, vous décidez de faire du brocoli avec soit des œufs, soit avec des saucisses ou du poulet. Vous aurez pu remarquer que je parle assez peu. Je parle relativement peu dans le sixième de viande et de poisson.
Oui.
Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir de la mauvaise viande, il vaut mieux pas en manger. Donc il vaut mieux à chaque fois viser la qualité.
Donc vaut mieux une boîte de thon ou des œufs pour avoir les protéines,
exactement,
comme vous dites.
Exactement.
Eh bien, ne bougez pas, hein, pas besoin de gros frigos et de grands placards pour bien recevoir. On continue d'en parler avec la belle cuisine essentialiste de Nathalie Georges. Juste après ça, à tout de suite. Et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Peut-on bien cuisiner avec peu d'ustensiles, peu d'ingrédients? La réponse est oui, nous dit Nathalie Georges,
oui,
auteur de La cuisine du sixième étage aux éditions Hérodios. Alors Gilberte, votre grand-mère vous a appris le goût de la cuisine. Elle vous a donné aussi le goût de la soupe parisienne. Qu'est-ce que c'est que cette soupe? Parce que moi, elle me plaît bien.
Ah, ben, vous avez bien raison. Si elle vous plaît bien, parce qu'elle l'a inventée en réalité. Elle a inventé le nom, la soupe parisienne à Paris. Souvent, les Parisiens, ils n'ont pas grand-chose dans leur réfrigérateur. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. De l'eau, du vermicelle, un œuf, on en a. Ça fait partie des plats magiques. Et ça consiste, c'est de l'eau. Vous faites chauffer du vermicelle, un peu de sel. Quand votre vermicelle est à peine, est encore al dente, parce que...
C'est capiamo.
On met le blanc de l'œuf, on tourne bien pour pas que ça fasse des paquets à l'intérieur, mais qu'il se dilue.
Il va faire des filaments de blanc,
voilà,
en fait.
Voilà, des filaments, absolument. Ensuite, vous retirez du feu, vous servez, et dans chaque assiette, vous mettez le jaune d'œuf et vous tournez.
Eh ben moi, je faisais ça dans les Vosges quand j'étais gamin, on appelait ça la soupe paysanne. Donc vous voyez, donc la soupe paysanne et la soupe parisienne.
C'est formidable.
C'est marrant quand même. Faut être,
non, très peu d'eau.
Mais c'est bon parce que c'est
non, vous avez raison.
C'est rassasiant, c'est nourrissant, c'est ça qui est intéressant dans cette soupe.
Oui, puis c'est simple à faire. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir fait vos courses. Vous pouvez le garder, vous avez des œufs dans votre réfrigérateur et du vermicelle.
Autre recette que vous nous avez apportée et simple à faire, Nathalie, c'est cette belle salade de pommes de terre. Voilà, ça c'est vrai que c'est un basique, mais quand c'est bien fait, bien assaisonné, ce qui est le cas, eh bien on se régale.
Pour moi, c'est un plat magique.
Ah, j'adore.
Parce que les ingrédients sont simples, ils sont pas chers, parce qu'avoir des pommes de terre et des échalotes, là j'ai mis une pointe de persil.
Un peu de vinaigre.
Tout à fait.
À chaud, quand elles sont épluchées et taillées en morceaux.
J'ai mis du vinaigre de vin. Astuce de Gilbert, dans le vinaigre de vin, vous mettez 3 mois avant, 4 mois avant de préférence, de l'estragon.
Ah, ça infuse.
Infusé.
Voilà, et ça donne à votre vinaigre de vin un goût formidable, une saveur.
Ça, on peut l'utiliser en salade, mais on peut aussi l'utiliser en garniture.
Elle peut être seule ou accompagnée, parce que seule, elle se mange très bien. Elle peut être accompagnée de plats chauds ou froids. Dans les plats chauds, avec une morteau, c'est formidable.
Ah oui.
Voilà, avec des saucisses de Toulouse aussi. Donc tout ça pour dire, ou même avec des Francfort, donc c'est des choses pas chères.
Ça, c'est les basiques du placard et du
frigo.
Oui,
mais j'insiste là-dessus.
Mais vous avez raison.
Parce qu'on vous dit, ah mais non, c'est cher. C'est pas vrai. Vous trouvez des pommes de terre, par exemple, vous allez chez Nature en Ville, ça va du producteur au point de vente. L'hiver, vous avez des pommes de terre à 1 euro, 1,10 euro le kilo. Elles sont bio, elles sont... Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème. Quelquefois, vous avez certaines variétés qui coûtent 1,40 euro, ok, d'accord, mais enfin bon, ça va.
Et autre astuce que vous donnez dans votre livre, Nathalie, c'est que ce qui est très important, et ça, je trouve ça chouette aussi de le rappeler, c'est le lien de confiance avec les commerçants. Avoir ses habitudes chez certains commerçants et repartir comme ça avec une carcasse de poulet qui pourra vous permettre de faire un bouillon, un coup de lapin pour parfumer un mijoté.
C'est capital, mais ça aussi, il y a du Gilbert derrière.
Votre grand-mère.
La grand-mère. Parce que le commerçant, on l'aime, on le respecte et on l'écoute. Et à partir du moment où il comprend que vous vous intéressez à son métier, il vient vers vous, il vous sert beaucoup mieux et il vous donne des choses. Parce que lui aussi, il sent qu'il partage avec vous la qualité de ce qu'il produit, de ce qu'il fait ou de ce qu'il élève.
Vous entendez, Olivier Poul, ça ne marche pas qu'avec les cavistes, avec tous les commerçants.
Mais bien sûr.
Le lien de confiance. Est...
Non, non.
Vous savez, il n'y a pas longtemps, mon boucher m'a donné un os à moelle.
Ah ben voilà. Ouais. Ben voilà.
Vous parlez alors, du poissonnier aussi. Hein.
Oui, oui, je parle du poissonnier. Alors, le poissonnier, vous lui dites, j'ai un bouillon de poisson à faire. Il va vous chercher les arêtes, les têtes de poisson et tout ça. Il vous les donne. Vous allez chez votre volailler habituel au marché, vous lui dites « j'ai un bouillon à faire », hop, il vous sort. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de terrible, c'est que les gens achètent des filets de poulet ou des filets de poisson. Il y a 50 ans, on achetait un poisson et comme ça, on se servait des arêtes et de la tête.
On pour achetait... faire un fumé.
Et voilà.
Oui. Bon, évidemment.
C'est ce que je voulais dire. Et pour le poulet, pareil.
Pour finir sur une note sucrée, tiens Nathalie, un dessert simple, express, bon marché qu'on peut faire au 6e étage ou dans une petite cuisine d'étudiants ou dans une petite cuisine tout simplement.
La banane flambée.
Ah oui, c'est votre hit ça. Hein.
Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que là aussi, toutes les générations, les enfants, tout le monde, la banane c'est quand même pas très cher.
Donc revenu dans du beurre.
Alors, on prend un plat à gratin, on épluche les bananes, on les pose. Un peu de beurre sur chaque banane, du sucre, comme ça, ça vous fait un petit caramel, vous voyez, quand ça cuit, hop, au four, très chaud, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, un petit coup de rhum, vous faites flamber.
Je l'attendais.
Ouais, non, attendez.
On fait un peu attention quand on allume le briquet quand même.
En allumette, c'est beaucoup mieux.
Oui, oui,
parce
c'est
qu'on
vrai.
Se brûle moins.
On se brûle moins. Oui, oui, non, mais elle a tout essayé, hein, Nathalie. Ben, merci
tous
beaucoup.
Les trucs.
D'être non, merci à vous.
Merci d'être venu nous voir avec vos belles recettes. Et ce que j'aime, c'est que vous nous rappelez le goût de la simplicité. Encore une fois, et on le dit régulièrement ici, ce qu'il y a de plus difficile à faire en cuisine, c'est de faire simple. Et c'est ce que vous faites. Vous faites simple et bon avec des ingrédients qu'on peut tous se procurer. Donc, c'est un bel éloge de la cuisine du quotidien, la cuisine du 6e étage de Nathalie Georges chez Hérodios édition avec une préface, dites donc, de Yannick Aleno quand même.
Ah ben oui, merci à Yannick Aleno, vraiment.
Et je voulais juste dire une dernière chose.
Oui.
Mieux vaut bien manger au 6e étage que mal au 2nd.
Oui,
ah mais
bien.
Je suis bien d'accord.
Et
à mon avis, si vous me permettez, on mange toujours très bien au 6e, ce qui n'est pas toujours le cas dans les étages inférieurs.
Ben, le second, alors les 2nds, allez-y, voilà. Mobilisez-vous pour bien manger. Allez, on va continuer avec les douceurs comme celle de la banane flambée. Christophe Michalak sera avec nous dans un instant. Il est venu avec des recettes que vous pourrez refaire ce week-end. Ne bougez pas, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Et maintenant, on accueille une légende de la pâtisserie qui est avec nous. Il est né à Senlis, dans l'Oise, à un coup de fouet de chantilly. Il doit son amour des desserts à une part de flan pâtissier achetée avec sa grand-mère. Après son CAP de pâtissier, il travaille aux côtés de Pierre Hermé, Aujourd'hui, il distribue ses gourmandises dans ses boutiques et dans ses livres. C'est le papa gâteau Christophe Michalak qui est notre invité. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous, mais quel accueil, je reviendrai. Hein.
Ravi de vous recevoir. On vous aime beaucoup, on a fait un sondage autour de cette table. Vous faites l'unanimité partout, Christophe Michalak.
Bah c'est bien ça.
Non mais c'est vrai,
c'est super gentil. Hein.
Parce que vous rendez les pâtisseries accessibles, vous vulgarisez, vous démocratisez, comme on dit, le goût du sucré. C'est ce que vous faites d'ailleurs avec ce livre, Recettes d'un pâtissier confiné qui sort chez Hachette. Le confinement était studieux alors.
Le confinement, comme la majorité des Français, j'ai pris 2,5 kg ou 3 kg à peu près. Et puis maintenant, il fallait que je fasse quelque chose. Moi, déjà, je suis à 200 à l'heure et je ne pouvais pas rester les mains croisées. Et puis, j'ai profité que mon épouse était à la maison, qui en plus fait de magnifiques photos et photographe.
Hein. Oui, Delphine Michalak, c'est elle qui vous photographie.
Absolument. Et puis après, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de faire un livre et de verser 100% des bénéfices au corps médical, aux soignants, à tous ces gens qui ont œuvré lorsque nous, on était coincés à la maison, à tous ces gens qui ont sauvé des vies. Voilà,
et qui continuent à le faire.
D'ailleurs,
on continue à les soutenir, bien entendu, hein, tout au long de ces jours qui sont encore difficiles. Quel est votre goût de la semaine, Christophe Michalak?
Alors, tout simplement, deux choses, un aïoli et un clafoutis. Voilà, ça arrive,
que
déjà, c'est pas
ensemble.
Mal. Et c'est le nom d'un restaurant que j'adore, un tout petit restaurant sans prétention à Saint-Rémy-de-Provence. Et franchement, c'est le meilleur aioli de la région. Et le clafoutis qui était à la Mirabelle, parce que je ne suis pas un grand fan de la Mirabelle.
Comment ça, vous n'êtes pas un grand, vous dites donc.
Excusez-moi, mes amis lorrains, mais non, mais je ne trouve pas que ça soit super intéressant comme la prune, etc. Voilà,
c'est pas possible, mais vous n'avez pas trouvé de bonne Mirabelle.
Les rôtis, c'est sympa, oui. Mais comme ça, manger tel quel, c'est pas ma cam. Et franchement, j'ai pris un clafoutis donc à la Mirabelle. Mais tu vois, c'était la simplicité ultime et tellement bon.
Réconcilié avec la Mirabelle grâce au clafoutis. Alors, c'est ça que vous nous dites. Vous êtes mis au salé aussi. On le voit dans ce livre, hein, y a des recettes salées. Et vous êtes mis aussi au salé avec l'ouverture de votre restaurant à Paris.
Exact. Hein, qui n'est pas très loin d'ici, hein, Polichinelle.
Exactement. Donc, assez végétarien comme ambiance.
Alors, on ne le revendique pas comme un restaurant végétarien, mais en fait, on travaille ni le poisson, ni la viande.
Voilà. Du végétal à fond.
En fait, c'est ma cam, si je suis sincère. Moi, je n'ai jamais été un gros viandard. Le poisson, ça me fait trop penser mes régimes chroniques, là, donc j'en peux plus. Et puis, on a surtout la chance d'avoir 1000 m² de potager urbain à l'étage, enfin au dernier étage de l'immeuble. Donc, on plante nos plantes aromatiques, on se fait plaisir. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours aimé cuisiner. Et puis, rappelez-vous, quand j'étais sur France 2, j'avais une émission qui s'appelait Dans l'impôt d'un chef, et à cette époque-là, je devais cuisiner, j'affrontais un chef
en temps réel,
un plat salé
absolument.
Et un plat sucré.
On traverse une période compliquée pour les restaurateurs, vous en savez quelque chose j'imagine avec Polichinelle, où c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Charlotte, l'avenir reste incertain, donc ils doivent tous encore continuer à s'adapter avec diverses solutions.
Exactement, Laurent, les restaurants des grandes villes sont soit fermés comme à Marseille et Aix, soit en sursis dans d'autres grandes villes comme Lyon, Paris ou Lille. Alors, nous sommes face à une équation difficile à résoudre, hein, celle de ne pas se résigner tout en soutenant les restaurants et en restant prudent évidemment au niveau sanitaire. Alors, je vous propose d'apprendre peut-être du passé et de réactiver certains leviers de secours mis en place par les chefs pendant le confinement, comme les services de plats à emporter ou les livraisons. Ces réflexes un peu salvateurs qui peuvent permettre de garder le lien avec les restaurants tout en respectant les mesures de distanciation.
Exactement, ça permet de s'offrir son restaurant à domicile, comme on dit.
Oui, et d'ailleurs, certains n'ont jamais arrêté la vente à emporter depuis le confinement. Je pense à Nordine Labiade du resto à mi-chemin à Paris dans le 14e avec ses fabuleux couscous, à Stéphanie Lequelec de la Seine avec ses burgers au Bouillon Pigalle et ses menus à 10 euros. Sachez aussi qu'à Marseille, Laetitia Wyss, la chef du restaurant La Femme du Boucher dont je vous parlais il y a deux semaines, elle a fait marcher sa rôtissoire. Elle propose des poulets rôtis et de la charcuterie à emporter. Et puis le food truck d'Alexandre Mazzia, il est enfin opérationnel avec des menus à 12 euros. Donc en fait, on ne peut que vous encourager, où que vous soyez, à vous renseigner auprès de vos restaurants de quartier pour savoir quelles sont les offres qu'ils proposent.
Les chefs s'adaptent, c'est ça, Christophe.
C'est au-delà de s'adapter, ce sont des guerriers et des guerriers, des guerrières. Et ça m'émeut d'entendre ça, quoi, parce qu'on est tous dans la merde, on ne va pas se mentir. Tout est compliqué, l'économie est compliquée, de surcroît dans les grandes villes, un peu moins en province, je pense.
Mais c'est vrai que Paris est durement, durement frappé, avec l'absence de touristes.
Horrible, on est tous à moins 30%, voire moins 40%. C'est comme ça. Moi, je pousse toujours un peu mon coup de gueule, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est que tous les bailleurs soient aussi solidaires de tout ça et fassent un effort sur les loyers, parce que les charges fixes, malheureusement, c'est un peu compliqué. L'État a été remarquable pour moi, mais si les bailleurs assouplissaient un petit peu aussi leurs loyers, ça permettrait à tout le monde de respirer mieux.
Une autre façon de soutenir nos chefs aussi, c'est de cuisiner leurs recettes à travers les livres qu'ils proposent,
oui,
Charlotte.
Oui, justement, pour trouver de l'inspiration, quitte à faire la cuisine chez soi, plusieurs livres compilent des recettes de chefs qu'ils ont préparées chez eux en famille. On a Plat de chef à la maison d'Annabelle Chakmes chez Solar, le très joli À la maison de Victoire Loup, que vous aviez évoqué, Olivier Pouls, avec La ventrèche de thon de Pierre Gagnère ou Les œufs farcis de Sébastien Bras. Pour chaque recette, on a une petite anecdote personnelle de chaque chef, si bien qu'on se croirait un peu avec eux en cuisine. D'ailleurs, on apprend qu'un certain Christophe Michalak prépare son curry végétal en écoutant de l'Aerosmith.
En fait, c'est des recettes de tous les jours avec ce qu'il y avait dans le placard. On n'a pas fait ni plus ni moins, on a fait ce qui était la vraie vie. Mais je pense qu'il y a eu un engouement, en tout cas, pour la cuisine et pour la famille.
Ouais. Merci Charlotte Langrand et on vous lit demain dans le journal du dimanche. De quoi sera-t-il question ?
Un beau portrait de la chef Chloé Charles.
Très bien, des filles en cuisine. Filles. Il y en a de plus en plus des filles en cuisine.
Et très douées.
Et on se réjouit. Christophe Michalak est avec nous jusqu'à 12h30. Ne bougez pas, ce sera bientôt l'heure du dessert. On revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite.
Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1. Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
De la cueillette à l'assiette, on déroule le chemin de table depuis 11h avec sa cuisine du 6e étage. Nathalie Georges nous a fait l'éloge de la cuisine essentialiste. Faire bon avec pas grand-chose, vous pourrez réécouter le podcast, vous verrez qu'il y a plein de petites merveilles à faire au quotidien dans une cuisine avec pas beaucoup d'ustensiles et pas beaucoup d'ingrédients. Et nous revoilà avec notre invité, le chef pâtissier Christophe Michalak. Christophe, 20 ans de pâtisserie déjà ?
Et mine de rien.
Ça ne rajeunit pas, ma bonne dame ?
Non, mais 20 ans, parce que je suis arrivé au Plaza lorsque j'avais 20... Enfin, j'avais pas 20 ans, pardon, j'avais 26 ans, je crois. C'est le 25 juillet 2000. Et en fait, c'est vrai que au Plaza Athénée, j'ai développé un peu le début de mon style dans les gâteaux un peu haute couture, etc. Et puis, je voulais maintenant, à l'aube de 2020, qui n'est pas vraiment une date fabuleuse, via le Covid et via tout ce qui nous arrive, mais je voulais vraiment synthétiser un peu tous ces 20 ans de travail, parce qu'en fait, tu sais, tu connais la musique, les recettes, elles évoluent avec le temps, avec notre façon de grandir, tout simplement.
Vous ne faites plus les mêmes gâteaux qu'en 2005, quand vous avez été vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie.
Non, pas du tout. J'ai totalement évolué. Et puis surtout, je fais très attention à ce que je mets dans mes gâteaux, à la matière première.
Donc vous sortez ce livre chez Hachette, qui va sortir pour Noël, en fait.
Absolument. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 3 livres dans un livre, en fait. Il y a la période Plaza Athénée, la période Masterclass, où j'ai développé ma première pâtisserie un peu rock'n'roll, et la partie qui me ressemble le plus, qui est Michalak Paris.
C'est vrai que vous êtes connu pour avoir fait des pâtisseries, comme vous dites, rock'n'roll, ludiques. Qu'est-ce qui a changé, surtout, vous diriez, dans votre pâtisserie en 20 ans ?
Ce que je mets à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Je fais très attention à la cause animale, je suis sensible, donc j'utilise des œufs bio, j'utilise des colorants naturels, de plus en plus de sucre non transformé. Je mange beaucoup de gâteaux, donc c'est nécessaire pour moi de faire attention à ce que je mets dedans.
Justement, il y a quelques années, vous m'aviez avoué même que vous aviez une réelle addiction au sucre à la base. Au sucre, ouais, est-ce que ça s'est calmé ? Parce que justement, on a des gâteaux moins sucrés maintenant.
Non. Alors oui, non. Alors, moi, je suis addict total au sucre. C'est un vrai plaisir au sucre et à la bonne chair, la bonne nourriture, bien évidemment. Mais mes gâteaux, depuis même les années 2000, n'ont eu cesse de... le fait de réduire le sucre, le gras et le pouvoir gélifiant, c'est un travail de tous les jours.
Vous l'avez fait aussi, oui.
Ouais.
Christophe Michalak, vous venez nous voir donc aussi avec ce livre, recettes d'un pâtissier confiné chez Hachette, avec des recettes simples pour tous les jours, du salé et du sucré.
Des vraies recettes de la vraie vie, c'est pas les recettes Instagram où tu passes 8 heures en cuisine et 3 heures à faire la photo. C'est du vrai de vrai.
C'est du vrai de vrai, ça ressemblera à ce qu'on fait à la maison.
Je supporte pas tous les trucs pinaillés.
Bienvenue au club. Et alors vous êtes venu avec le dessert du jour, justement, on vous a demandé de réaliser un dessert du jour inspiré de votre livre. Et vous êtes venu avec un ingrédient alors qui peut faire débat aussi et pour le coup qui est bon marché. On rejoint la cuisine économique de Nathalie Georges de tout à l'heure. C'est le tapioca, qu'on appelle la perle du Japon.
Alors déjà, c'est un dessert, c'est un souvenir très précis. Je crois qu'on est en 2003. Je suis à Singapour et je goûte une sorte de tapioca au lait de coco et on verse un sirop de sirop de palmier qui ressemble beaucoup au sirop d'érable. Et là, vraiment, je me suis pris une claque. C'est-à-dire, c'est des perles du Japon qui sont cuites dans de l'eau, qui sont ensuite rafraîchies avec un lait de coco très froid. Et au dernier moment, on verse un petit sirop et on remue tout simplement...
C'est cuit
à la cuillère.
Alors, c'est le meilleur moment de l'émission, pour tout vous dire, parce que je vais retirer mon masque en
oui.
pour goûter.
Et je me permets, moi aussi.
Alors là, regardez,
ça
on
fait
va
comme
goûter.
Une petite soupe, en fait. Hein,
exactement.
Avec un jeu de texture qui est... C'est parle du Japon, j'adore, parce que ça vient éclater comme ça, tac, tac,
ouais,
tac.
Bah surtout, tu vois, c'est peu... Alors là, je l'ai fait très rapido hier à la maison, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ça aurait mérité peut-être un peu plus consistant, un peu plus gélatineux, tu vois.
Les perles du Japon, le tapioca, c'est la même chose, c'est de la farine de manioc.
De manioc. Hein.
Le truc le plus difficile à réussir là-dedans, souvent, c'est la cuisson. Combien de temps pour la cuisson?
J'ai attendu d'avoir 47 ans pour pouvoir le cuire correctement. En fait, très souvent, on cuisait les perles du Japon dans du lait de coco. C'est une erreur pour moi. Comment je fais? Je fais bouillir beaucoup d'eau, je verse en pluie
les
perles du Japon, je mélange, je cuis à feu doux pendant 5 minutes, je coupe le feu et je laisse toute la nuit, tranquillement les perles du Japon se réhydrater. Et le lendemain, je n'ai plus qu'à les passer au tamis, au chinois, ce que vous voulez.
Vous les égouttez.
Et je les récupère, je mets ça dans un grand bol, j'arrose généreusement de lait de coco et puis je laisse au frais. Et ce qui est fabuleux, c'est de le boire très très froid.
Dernier
moment, on met une nichette de sirop d'érable.
C'est ça qui est fort, c'est qu'avec un dessert comme ça, du quotidien, avec des ingrédients qu'on a tous dans les placards, hein, la brique de lait de coco, les perles du Japon et le sirop d'érable, on a quelque chose qui est très structuré en goût et qui est très équilibré.
Le meilleur déjeuner du moment. Enfin, moi, au petit déjeuner, je peux... Alors, c'est dangereux parce que je peux prendre 4 bols comme ça.
Et ben, on vous mettra la recette sur europe1.fr. C'est l'automne, la saison des noix, des cèpes. Alors, quel vin accorder avec ces trésors de la nature? Ne bougez pas, Olivier Pouls va tout nous dire avec ses 2 minutes du vin. Il est en train de finir le tapioca.
Ah oui.
Hein, c'est bon, ça. Hein.
J'en laisserai pas un grain.
À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Eh bien, nous terminons ce midi le délicieux dessert de Christophe Michalak, les perles du Japon avec du lait de coco et du sirop d'érable. Et Olivier, on se disait, c'est vrai que c'est pas simple d'accorder un vin avec ça sur un dessert, mais vous avez trouvé l'idée, je crois.
Aussi, l'équilibre n'est pas facile pour un vin. Et moi, je ferai un clin d'œil aux perles du Japon avec une spécialité japonaise qui est le saké et les saveurs umami. Justement du saké sans acidité, à mon avis, peuvent être très intéressantes là-dessus.
Mais très bon choix.
Hein, pas mal. Vous avez une boutique au Japon, d'ailleurs,
ouais,
Christophe
Michalak. Oui, ça, un peu plus que ça, on en a 6.
6 au Japon, ouais. Maintenant. Ah oui, bah, vous avez fait des pousse, petits litres, donc ça pousse. Et vous êtes venu nous voir donc, avec ce livre, Recettes d'un pâtissier confiné. Je le disais, il y a des recettes aussi salées à l'intérieur.
Absolument.
Notamment une qui m'a tapé dans l'œil, et on rejoint ce que vous servez chez Polichinelle, votre restaurant autour du végétal à Paris. Ce sont des pancakes aux légumes.
Ouais, tu sais, moi en fait je suis le spécialiste pour ouvrir le frigo, qu'est-ce qu'il y a, combien de temps j'ai, et bim, j'envoie. Et puis le pancake, c'est typiquement pâtissier. Tu sais, souvent, on oublie que dans le mot pâtisserie, il y a le mot pâte. Donc l'équivalent, la base du métier du pâtissier, c'est la pâte. Et bien évidemment, le pancake en fait partie. Et pourquoi pas le faire salé? C'est tout simple, c'est tout bon, on récupère tous les légumes qui traînent. Et
la farine de maïs aussi.
Oui, alors de plus en plus aussi, on parlait des gâteaux tout à l'heure, Charlotte. De plus en plus, je fais attention à l'intérêt du gluten. J'ai remarqué que justement, en mangeant des pancakes aux États-Unis, il y a quelques années, j'avais très très mal au ventre parce que c'est une très mauvaise farine en général, surtout chez eux. Et de plus en plus, où je zappe totalement la farine, je la remplace par des fécules ou par autre chose.
Farine de maïs, donc pour les
et
pancakes.
Entre autres, cette recette était à la base de farine de maïs. Et c'est vrai que la digestion est beaucoup plus saine. Ça n'empêche que lorsque je fais un bon croissant, une bonne brioche, j'utilise de la farine de blé. Voilà. J'arrête pas tout du jour au lendemain. Mais c'est agréable de jongler et de faire des produits qui se digèrent bien.
Vous y connaissez en vin? J'imagine que oui, Christophe
Michalak. Oui, un petit
Michalak,
peu. Ouais. Je suis plus sucré, bien évidemment, mais j'ai commencé en fait mon éducation sur le vin très tard, grâce à mon ami Pierre Armé.
Et, qui connaît et c'est un peu la musique.
Qui est un joli palais.
Qui connaît bien et qui taquine un peu sur le sujet.
Alors cette année, Olivier, chaque mois, vous allez jouer avec les accords du marché. Hein, 2 produits de saison et 1 produit intemporel que vous allez accorder avec du vin ou inversement. Alors tiens, on va commencer. C'est l'automne, la saison des champignons. Alors on va prendre le cèpe. Hein,
bah oui, le champignon du moment.
Avec les alternances de pluie et de soleil de ces derniers jours, on peut peut-être en trouver dans certains endroits.
On devrait revoir pointer son chapeau dans les forêts, j'espère, dans les jours qui viennent. Ouais. Bah alors ça, c'est un cadeau, hein, parce que franchement, le champignon et le vin, c'est un accord assez évident, assez facile. Alors pourquoi? Parce que souvent, quand les vins prennent un tout petit peu d'âge, ils, comme on dit, champignonnent un peu. Alors il faut que ça champignonne noblement. C'est-à-dire que vous allez avoir des arômes dans le bouquet qui vont se développer, des petites notes, alors tantôt de cèpes frais, tantôt de champignons de Paris, tantôt d'humus. Et donc quand vous avez la rencontre entre ces vins qui ont évolué un petit peu et le champignon, c'est magique. Prenez un carpaccio de cèpes bien frais, des petits bouchons tac-tac avec une petite huile de noix ou même une petite huile d'olive. Vous sortez un vin blanc qui a quelques années d'âge de Bourgogne ou même de la Loire et vous allez voir, vous avez une espèce de concordance de saveurs qui est complètement magique.
Un beau blanc de Bourgogne ou de Loire avec le cèpe.
Quelques années de cave.
Pas
si
un jeune, oui. C'est également la saison des noix. Alors, noix fraîches, noix sèches. Qu'est-ce qu'on boit avec les noix ? Pas un vin de noix ?
Non, encore que, on pourrait, mais là aussi, c'est assez facile parce que la noix, c'est encore une fois des saveurs automnales. C'est quelque chose qui est plutôt valorisant pour les vins, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient rouges. Là aussi, l'idéal, c'est d'avoir des vins qui ont un tout petit peu d'âge, surtout pour les blancs, mais des rouges un peu frais, un peu fruités. Par exemple, de la vallée du Rhône, qui ont même un peu de caractère. Prenez une poignée de noix fraîches avec ça. Et vous allez voir que ça matche assez bien et ça donne une jolie complémentarité.
Alors, un produit intemporel qu'on a tous dans nos placards ou dans nos frigos, ça dépend où on le range, hein, parce que c'est vrai qu'il y a débat aussi là-dessus, c'est l'œuf.
Alors là, évidemment, je me disais aussi que c'était un peu trop facile, parce que là, l'œuf, c'est un vrai casse-tête pour les vins. Alors, pourquoi ? Parce que le gras du jaune d'œuf, en réalité, est assez destructeur pour les saveurs du vin. Il gomme les tanins des vins rouges, il écrase un peu les vins blancs. Donc c'est assez compliqué. Mais surtout, il y a la manière de préparer l'œuf. Alors si vous faites, par exemple, un œuf dur maillot, c'est délicieux. Un Beaujolais un petit peu frais, ça peut fonctionner. Une brouillade d'œufs, je le verrais plutôt avec un vin blanc sec, type un Sancerre. Et alors, évidemment, si vous faites ce que j'adore, des œufs en meurette, avec justement cet apport de vin rouge, puisque c'est une sauce en fait de bourguignon, là, vous pouvez jouer sur un Bourgogne un peu tendre, ça va fonctionner. Non, mais c'est jamais extrêmement satisfaisant avec l'œuf, il faut bien le reconnaître.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce gras du jaune, comme vous dites, qui envahit le palais. Il n'y a pas de vin dans vos desserts, dans votre livre, Christophe
non,
Michelac.
Moi, je ne bois que de l'eau à la maison.
Et du rhum.
Je suis sensible à ce que tu dis, et c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Moi, je suis un amoureux de l'œuf maillot. Tu vois, c'est vraiment la base. Quand c'est très bien fait, je trouve que voilà, les grands basiques sont fabuleux.
Il y a du rhum, je le disais dans votre livre, avec le baba au rhum. À part ça, vous n'êtes pas très alcool dans les desserts, j'ai remarqué.
Alors, pas trop, mais pour moi, l'alcool, automatiquement, est un exhausteur de goût. Donc, par exemple, moi, de plus en plus, lorsque je travaille le marron, j'aime y associer du whisky, un tout petit peu, ou éventuellement de l'armagnac.
Oui, ça prolonge le goût, il y a une longueur en bouche, effectivement, apportée par le whisky.
Quand les gens voient l'intitulé avec du rhum ou un alcool, automatiquement, ça fait peur. Mais il ne faut pas, parce que tu ne le sens quasiment pas, c'est vraiment, il chatouille les papilles.
Puis l'alcool, en général, disparaît à la cuisson.
Complètement.
Il faut que ce soit subtil.
Et c'est super bon.
Ne bougez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Christophe Michalak est un papa gâteau, mais il n'a pas fini de se mettre à table. On va le passer, sur le grill des bons vivants, juste après ça. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Dernière partie de l'émission en compagnie de Christophe Michalak. 20 ans que vous nous régalez avec vos desserts, Christophe. Tiens, si vous deviez être un dessert, un seul, ce serait lequel ?
Le dessert qui m'a émoustillé lorsque j'étais môme, le flan.
Ah, avec votre grand-mère ?
Ouais, grave. Alors, si je le regoute maintenant, le flan, j'ai une machine à remonter le temps, je pense que je le goûte et je vais me dire, c'est quoi ce daube, quoi ? Parce que tu sais, c'est le souvenir de ton enfance.
Bien sûr, on n'arrive jamais à retrouver le
goût.
Mais
en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'être pâtissier. Et je sais pas, il y a cette douceur naturelle du flan. Sans vanille, sans rien... tout bête.
Je suis venu vous voir une fois dans votre labo et je sais que vous adorez gamberger et chercher autour du flan. Vous faites plusieurs versions depuis que vous êtes pâtissier. Je ne sais pas combien de versions vous avez fait du flan.
Le problème, c'est que je suis obsessionnel. On est tous obsessionnels autour de cette table. La perfection n'existe pas. Donc, c'est toujours là une remise en question perpétuelle. Mais je fais le flan que j'aime manger maintenant, qui n'était pas le même il y a quelques années. Donc peut-être que demain, ça sera encore un truc différent.
Et vous m'en avez fait goûter un sans pâte, qui était délicieux, je me souviens.
C'est rapide à faire à la maison, mais même si c'est bien une petite pâte tatinette, ça fait du bien.
La pâtisserie, c'est de la précision, de la technique. Quel est le dessert qui vous a donné le plus de travail, vous diriez, Christophe ?
Il y a des gâteaux très traditionnels, comme la forêt noire.
Oui.
Je suis pas.
C'est génoise, chocolatée.
On en a fait, j'ai dû faire 20 versions, tu vois, mais... C'est un truc, bon, c'est, toi, c'est comme une tourte à la Mirabelle. Ou,
oui, mais vous n'avez pas avec l'Est quand même. Pas, hein. Je vois que la Forêt Noire, ça passe pas, la Mirabelle, ça passe pas. Vous avez un problème avec l'Est, Christophe
Michalak. Non, du tout. Non, non, moi j'aime tout, mais... Tu sais, on est tous à la recherche d'une émotion. Donc parfois, il y a un travail énorme, par exemple, sur le Paris-Brest. On a changé 150 fois. Et après, je pense qu'on fait vraiment le Paris-Brest qui nous ressemble. C'est ça qui est intéressant, c'est d'acquérir un style et puis de le pratiquer à travers un gâteau, tout simplement.
En tout cas, si on veut suivre votre style et vos pâtisseries, hein, 20 ans de pâtisserie, ça sort pour Noël chez Hachette Édition. Il y a trois grandes parties, il y a trois tomes. Il y a Michalak à Paris, il y a le Plaza Athénée, c'est vos débuts. Ouais. Et puis il y a les masterclass, ces fameux cours que vous donnez pour faire évoluer là aussi la pâtisserie. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Vous êtes prêts ?
Je suis toujours prêt, moi.
Il n'y a pas de grill en pâtisserie, mais chez nous, il y en a un. Quel est le goût de votre enfance, Christophe ?
J'en parlais tout à l'heure, le flan.
Eh oui, le flan pâtissier. Le premier plat que vous avez cuisiné, vous en souvenez ?
Alors, le premier plat que j'ai cuisiné par amour pour mon épouse, elle qui n'était pas très viande à la base, mais je pense qu'elle était très amoureuse, j'ai fait poêler, qu'on appelle ça, du boudin noir, tu sais, de Christian Parra, à l'époque, tu te rappelles ?
En conserve, magnifique.
En conserve, poêlé, et j'avais fait une purée de pommes de terre, façon robuchon, bien beurrée, etc. Et elle avait mangé que la purée, donc je pense que... J'ai pas vu, moi, on était très amoureux, c'était notre premier encart, mais après elle m'a avoué qu'elle était pas très viande, et puis depuis elle mange plus de viande. Voilà.
Il y a eu un message subliminal qui a été envoyé alors. Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Alors là, encore une fois, j'en ai tellement des idées, des émotions. Il y en a trois comme ça qui me viennent, trois, quatre qui me viennent en tête. La famille Trois Gros, que je trouve exceptionnelle, à chaque fois que j'y vais. Voilà, je suis ému de une forme d'intelligence, du respect du produit. Et je me rappelle, à un moment, il y a quelques années, ils avaient un pâtissier qui s'appelait Goto, qui est reparti au Japon entre-temps, et qui a fait une tarte au chocolat. Waouh ! Elle était juste folle. Et voilà, ça, j'ai un souvenir bluffé à ce niveau-là.
La famille Trois Gros qui reçoit à Ouche aujourd'hui, mais il y a aussi le Central, leur brasserie qui est plus accessible et qui se trouve à Roanne
aussi.
Ou
la colline du Colombier.
Exactement, il y a plusieurs adresses. Oui.
J'ai un souvenir aussi très ému de Michel Guérard. Déjà, l'homme, on peut l'écouter pendant 3 heures. Je crois qu'il a 84 ou 85 ans.
Il est venu à cette table il n'y a pas longtemps. C'est le plus jeune des chefs cuisiniers,
Michel
Guérard.
Non, mais il est fou. Je veux dire, tu ne le suis pas en voiture. Il a une énergie. Déjà, moi, je suis un peu... ça se voit un peu, quoi. À force de manger du sucre, je suis un peu rock'n'roll. Lui, j'ai trouvé mon maître. Hein. Il est exceptionnel. Et puis, je garde toujours en tête, tu sais, lorsque tu vas chez lui, tu as toujours des petites tartes à la tomate, hein, très fines, feuilletées, qui sont remarquables. Et puis, le fameux gâteau marquis de béchamel. Un gâteau, alors je dis ça en rigolant, on a l'impression que tu as un peu vomi dans l'assiette. Ouais, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais par contre, dès que tu le manges, tu es transporté comme dans le film Ratatouille. C'est-à-dire que moi, j'ai posé ma cuillère et ma femme me parlait. Oubliez-moi, je suis en connexion avec Dieu. C'était divin, juste divin.
Votre pire repas ?
En fait, je n'ai pas de souvenir de pire repas, mais c'est de rester très longtemps à table. Moi, au-delà de 3 heures à table, tu me perds. Mais au bout de 2 heures, déjà, c'est pas gagné.
Vous n'êtes pas très menu dégustation avec le rythme qui s'enchaîne, en fait, c'est ça ?
Non, alors, plus maintenant. Et par contre, tu as dit un truc qui est très important. Moi, j'aime le rythme. Dans le rythme, si j'attends 45 minutes entre deux plats, tu m'as perdu. Ouais, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas subir.
C'est compliqué. Je comprends très bien.
Je dois manger une corbeille de pain. Et...
Oui, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué.
Et puis après, on n'a plus faim. Et puis après, on a mal au ventre. Voilà, c'est ridicule.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Christophe Michalak ?
Alors, j'ai plein de passions de ma vie. Après ma femme, le tennis, le chocolat, le tarama, j'ai aussi la passion des glaces et les coupes glacées. Donc, si je pouvais prendre un gros congélateur, hein, on peut toujours rêver avec plein de glaces différentes. Je suis un passionné de glaces.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Alors, dans le désordre, je prendrai Agassi, parce que je suis un fan de tennis, et je trouve que le bonhomme, au-delà de sa carrière de champion, il a une grande âme, et il a fait beaucoup de choses pour les autres. Bono, je suis un grand, grand fan de U2, et puis aussi, lui, il impose le respect. Mohamed Ali, parce que je suis aussi passionné de boxe, et puis le type, il est hors du commun. Mike Horn, parce que le mec, pareil, j'ai lu tous ses bouquins, ouais, il est, je pense que je fais... un dixième de ce qu'il a fait et je pleure ma race. et puis, si tout pouvait être orchestré par mon amie Anne-Sophie Pic, ce serait pas mal. Un
joli
bon
casting.
Repas.
Et pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M, Christophe Michalak.
En fait, je sais pas si c'est bien ce que je vais dire, mais moi, je vais dire empathie. Un peu plus d'empathie dans le monde, de bienveillance et d'empathie.
Et le dessert sert à ça, sert aussi à transmettre de l'empathie, la table, les douceurs.
Un peu plus de douceur dans ce monde de l'empathie. Brut, hein. Ça serait pas mal, non ?
Eh bien, on est preneurs, absolument. Merci d'être venu à cette table,
Christophe
Michalak.
Je reviendrai parce que j'étais très bien accueilli. La salade de pommes de terre, les canons. Le dessert n'était pas trop mal et c'était super sympa.
Et on vous mettra, chers auditeurs, les recettes évidemment sur Europe1.fr. Merci de votre fidélité. Hein. Vous êtes nombreux à écouter le podcast. Il est sur Europe1.fr. Vous êtes nombreux aussi à suivre notre newsletter. Elle est gratuite aussi sur Europe1.fr. Merci à toute la bande qui m'a aidé à préparer cette émission. Jean-Luc Arblade, Lucie Lescourou, Marion Sauveur, Julien Amat et puis Olivier Pouls et Charlotte Langrand. Qui ont été de bons camarades de table.
Mais à votre service, monseigneur.
Et à la semaine prochaine, les amis. Et on embrasse notre camarade Yves Candebord, qui est un heureux papa d'Amaya, qu'on embrasse et à qui on souhaite
toujours,
la bienvenue à la petite Amaya, qui est sublime. On va arroser ça. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Portez le masque. Faites le marché. Vivez. Ne bougez pas dans un instant. C'est le journal d'Europe Midi avec Fabienne Lemoyle.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.